应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, notre toile accueille l'éclairage particulièrement actuel de deux films, pourtant très différents, Tony Erdmann de Maren Adé et Clash de Mohamed Diab. Et pour recueillir leurs images, les yeux de Mathias, Clément et Léo pour la deuxième partie se joignent aux miens. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour Rémi.
Bonjour Rémi.
Nous commençons donc par Tony Erdmann, le film qui a marqué la critique à Cannes cette année et qui suit un certain Winfried, sexagénaire allemand, qui vit seul avec un vieux chien et occupe son temps à faire des farces à tout son entourage. Et puis un jour, sa fille Inès, consultante pour une grosse entreprise pétrolière en Roumanie, passe un coup de vent, sèche, pincée, pressée, impersonnelle. Le père effaré la suit en Roumanie, où il s'immisce peu à peu avec ses pitreries dans la vie de la jeune femme, cherchant à faire éclater le vernis hostile et glacé qui l'isole du monde, et sans doute un peu du bonheur. Il devient alors Tony Erdmann, s'affublant d'une perruque et de fausses dents, et se fait passer pour un coach pour cadres sup, dynamitant tous les cadres sociaux pour essayer de dérider sa fille. Alors voilà, j'en raconte pas plus, même si le film dure quand même 2h42, et je vous laisse me donner votre avis, Mathias et Clément.
Alors, sans surprise et sans dire quelque chose de très exceptionnel, mais je dois dire que ce film est une merveille. C'est 2h42, comme tu l'as dit, qui passe très très bien, même si on peut avoir un gros a priori, on va voir ce genre de film. Mais vraiment, il n'y a rien à redire.
Moi, je suis à peu près d'accord, peut-être un peu plus nuancé sur le constat final, mais je n'ai pas vécu du tout ma séance de la même façon. C'est-à-dire que moi, les 2h42, je les ai vraiment sentis passer. Il y a vraiment un moment où je me suis ennuyé, enfin vraiment. Ça n'empêche qu'en y repensant après, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de belles choses dans ce film et qu'il est très très loin d'être inintéressant.
Alors, je serais quand même un peu plus du côté de Clément. C'est vrai que c'est un bon film et il y a quand même vraiment beaucoup de très très belles trouvailles, qu'elles soient comiques ou pas d'ailleurs. Et c'est ce qui fait aussi la force du film. Malgré tout, je trouve qu'il y a vraiment des longueurs et des répétitions et qu'au bout d'un moment, le scénario devient trop touffu et trop itératif. Il y a des scènes qui n'apportent vraiment rien. Cela dit, ça reste un bon film, mais j'irai pas jusqu'à l'auréoler de toute la gloire que lui a conféré la critique, parce que je pense qu'il y a eu quand même de bien meilleurs films cette année au festival.
Mais tu dis que le film est long, mais il y a des lenteurs, certes, mais qui colle vraiment à l'esthétique du film parce qu'on est vraiment dans le temps réel. Il y a une scène qui est assez marquante, c'est quand la fille ramène son père à l'ascenseur pour qu'il rentre en Allemagne. Elle appelle l'ascenseur et on attend l'ascenseur avec eux. Et pour moi, c'est assez symptomatique de tout le film. On est vraiment dans le temps réel, sans coupure. Et parfois, oui, itératif et répétitif, mais parce qu'on suit ces deux personnages sans l'artifice d'une comédie familiale où on ferait des grands effets. Il y a vraiment la volonté de filmer et d'accompagner ces personnes-là.
Mais ce qui me gêne, c'est pas tant ces moments où justement on laisse s'installer la gêne, parce que c'est là tout l'intérêt du film finalement, essayer d'exploser tous les codes sociaux, mais plus la répétition de certains procédés comiques qui au bout d'un moment me semblait un petit peu lassante. Après, c'est le reproche que j'aurais à faire, mais il y a une grande finesse dans ces deux personnages, dans les rapports qu'ils entretiennent, et jusque dans l'issue du film qui n'en est pas une du tout.
Mais non, justement, il n'y a pas de dramatisation du film. Au contraire, on est vraiment dans des relations qui sont plausibles. C'est juste une relation entre un père un peu largué et sa fille qui essaie de se noyer dans le travail et qui n'est pas heureuse.
Oui, complètement. Il faut quand même reconnaître à ce film qu'il a un certain courage, on peut dire, en essayant de monter une comédie extrêmement sérieuse.
Oui, parce que bon, c'est certes un film comique, mais c'est pas du tout un film où on va rire à gorge déployée pendant 2 heures. Enfin, les moments où on rit, et il y en a quand même beaucoup, c'est quand même plus un... C'est quand même très grinçant et on... je sais pas trop si on rit parce qu'on trouve ça drôle ou parce qu'on est très gêné de voir la situation qui est en train de se mettre en place à l'écran, en fait. C'est ça qui est intéressant, du coup.
Oui, et d'un autre côté, il y a quelque chose de très très jouissif
oui.
à voir ce personnage faire les pires pitreries
oui,
que l'on n'oserait jamais faire soi-même pour gêner le monde entier, mais dont on rêve en son fort intérieur. Enfin, je veux dire...
Surtout toi, n'est-ce pas?
Ah bon, vraiment? Oh, tellement peu. Mais il y a quelque chose de... Oui, ben, extrêmement jouissif à voir imploser comme ça la façade d'une société qui semble parfois n'être que façade. Et sous tous ces aspects, en fait, le film essaie vraiment de fuir les faux-semblants. Et également, dans le traitement des acteurs aussi. Et je trouve qu'il y a une attention très particulière qui est donnée au corps des acteurs. Il y a vraiment une façon de traiter le corps. Déjà, d'essayer de rendre le corps d'Inès le plus laid possible.
Est-ce qu'on parle de cette scène de sexe
Oui, voilà.
Qui est incroyablement gênante en tant que spectateur.
Il y a un certain nombre de scènes comme ça où les personnages finalement semblent complètement étrangers à leur corps. Une scène aussi où elle essaye de s'extirper d'une robe comme elle peut. Et alors, la métaphore peut-être un peu facile de la chrysalide est pas loin, mais malgré tout.
C'est des gens qui ne prennent pas de plaisir.
Oui.
Inès ne sait pas prendre du plaisir. Là où son père, au contraire, qui a un corps assez
bedonnant,
exagère lui son corps.
Exagère son corps et en même temps arrive à finalement en jouir comme il peut.
D'une façon qui est complètement aux antipodes de celle de sa fille. Tandis qu'elle est corsetée, lui, il exagère, il va plus loin qu'il le faudrait, à se rajouter des dents. Cet immense déguisement qui... Où il déborde même de l'image. Enfin,
il déborde de la porte, il déborde de partout.
Eh bien voilà, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. C'est donc Tony Erdmann de Ma Reine AD qu'il faut absolument aller voir donc si vous écoutez Mathias, ou qui peut être un bon moment si vous nous écoutez Clément et moi. Et tout de suite après une virgule, on se retrouve avec Léo pour Clash de Mohamed Diab. Et je retrouve Léo pour discuter de Clash, film coup de poing s'il en est, qui nous plonge pour une heure et demie dans un fourgon où la police, débordée par les manifestations qui ont déchiré le Caire après la chute des frères musulmans, a entassé pêle-mêle deux journalistes, des manifestants des deux bords, un policier, deux enfants, des vieillards, et dans ce huis clos roulant dans la ville en feu, les hommes et les femmes s'invectivent, se battent, mais s'entraident aussi, alors que l'extérieur menace à chaque instant de les détruire avec le fourgon. Voilà pour un résumé succinct donc, de ce film Clash. Alors Léo, qu'est-ce que tu en as pensé ?
J'ai beaucoup aimé Clash. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Effectivement, c'est un film qui percute bien. Un huis clos assez oppressant, des moments de calme, des moments où effectivement il y a à nouveau des clashs entre les occupants. Et c'est vrai que c'est quelque part une œuvre de fiction, mais on est bien dans l'action, enfin dans les événements qui s'étaient déroulés en 2013 au Caire. La reconstitution est très fidèle. Et non, pour moi, j'ai beaucoup aimé.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est un film assez violent avec son spectateur, on peut dire ça comme ça. C'est un film qui nous secoue, qui nous prend et puis qui ne nous lâche plus. On est dans ce fourgon pendant une heure et demie, on n'en sort pas, la caméra ne sort pas de ce fourgon, de la première à la dernière image du film. Et il y a quelque chose de très oppressant et de carcéral, c'est le cas de le dire, dans cette image. En particulier parce que le cadre est toujours fermé.
Oui, bien sûr. Oui, c'est...
Et puis aussi avec les fenêtres.
Oui, les fenêtres qui sont quelque part la seule échappatoire pour les prisonniers du fourgon.
Pour les regards et pour la caméra.
Voilà. Donc effectivement, on est comme eux, on a le même champ de vision qu'eux. On ne sait pas des fois ce qui se passe. On est tout autant surpris qu'eux. Lorsque le fourgon se fait attaquer ou lorsque il s'arrête ou qu'il y a des événements, On sent les mêmes dangers qu'eux, notamment une scène où il y a un tireur embusqué et où on ne sait pas trop qui il vise précisément.
Oui, et où on le voit par instant à travers voilà. différentes fenêtres. C'est vrai qu'il y a cet enfermement donne une force au hors-champ.
Oui, oui. Et quelque part, paradoxalement, dans cette scène, qui est-ce qui identifie la position du tireur ? Ce ne sont pas les policiers qui sont à l'extérieur et qui ont pourtant un champ de vision beaucoup plus grand. Ce sont les personnes dans le fourgon. Quelque part, comme si elles avaient un regard supplémentaire, peut-être de par la diversité des personnes qui y sont, de leurs opinions, de leur classe sociale. On ne sait pas trop, mais...
C'est vrai que... Et on peut peut-être en profiter justement pour basculer sur l'aspect très très politique de ce film.
Oui.
C'est vrai que très vite, il y a beaucoup de clivages, beaucoup de différences qui se brouillent.
Le premier clivage qu'on pourrait se dire... déjà, il y a trois camps qui se dessinent un petit peu dans le fourgon. Il y a d'un côté donc, le camp des opposants à Morsi, donc des partisans de l'armée. Le camp des pro-Morsi. Et enfin, le dernier camp, si on peut dire, qui est constitué du journaliste, qui, quelque part, est un peu plus neutre dans cet affrontement politique. Mais c'est vrai que très rapidement, les frontières se brouillent. Je songe notamment à la conversation entre le jeune garçon et la jeune fille, où ils jouent effectivement au même jeu, Morsi contre, enfin l'armée contre les manifestants, sauf que pour le jeune garçon, on tue les manifestants, et pour la jeune fille, on caillasse les policiers. Donc,
oui, c'est vrai que soit dans la difficulté, il y a un rapprochement nécessaire,
oui.
Et comme c'est le cas entre les deux femmes à un moment, comme tu le disais, ou justement dans les moments de détente, dans ce moment où ils se mettent à parler de foot, ou bien quand une personne se met à chanter, c'est très très drôle, et même rire dans la salle. Et tout ça est servi par une mise en scène vraiment, vraiment très efficace,
oui.
Parce qu'il fallait le faire quand même, tenir pendant une heure et demie dans l'espace très exigu de ce fourgon. La caméra est très mobile pourtant, il y a beaucoup de mouvements. Et puis la distribution des dialogues, en fait.
Il y a aussi un paradoxe assez amusant dans les mouvements de la caméra, justement, c'est que ces mouvements sont tellement rapides qu'ils font penser, effectivement, enfin, comme nous, quand on passe d'une chose à l'autre avec un regard, effectivement, la caméra va très vite, comme pour, quelque part, peut-être, fusionner les points de vue de tous les occupants du fourgon, pour avoir un point de vue extérieur un peu plus global. Et aussi, il y a une mise en abîme assez amusante, je trouve, avec la montre du journaliste qui elle-même filme les occupants, et donc des scènes, notamment la scène du chant. Et quelque part, cette montre, c'est un peu une... Le journaliste l'utilise en disant... comme ça, ils sauront comment c'est à l'intérieur, comment les gens se déroulent.
Oui, et
quelque
peu...
part, c'est un écho à la vraie caméra qui, effectivement, nous montre comment les gens pouvaient réagir lors, justement, de ces émeutes en 2013.
C'est un petit peu ça, oui, en effet. Enfin, voilà, donc c'est Clash de Mohamed Diab, un film choc, on peut le dire.
Oui, et puis...
Avec un côté... quasi documentaire.
C'est vrai, c'est ça aussi, le côté un peu caméra à l'épaule, le fait d'être avec les personnages. Et puis, c'est vrai que c'est un documentaire et des fois le montage est très brut. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de musique, c'est juste l'action et la scène, ça suffit. Et il y a d'autres moments où, avec la lumière et autres, on sent plus la patte cinématographique. Et pour moi, c'était un bon équilibre. Et c'est vrai que. C'est vrai que c'est un film qui est quand même instructif sur ce qui a pu se passer en 2013 en Égypte.
Un bon équilibre, eh bien, on restera là-dessus. Clash de Mohamed Diab, c'est en salle encore pour quelques temps dans plusieurs salles lyonnaises, dont les CNP et le Comédia. Enfin, petit aperçu de votre agenda cinéma de la semaine. Et je commence avec la sortie de Fuoco Amar et de Gianfranco Rosi, un documentaire choc qui confronte le quotidien des habitants de l'île Lampedusa aux images de ceux qui ne font que traverser l'île. ces centaines de milliers de migrants qui s'y échouent jour après jour. C'est un film terriblement actuel qui parle de la nécessaire indifférence de la population locale, comme de la douleur des migrants, ce qui lui a valu un ours d'or au dernier festival de Berlin. Et puis Dogs, de Bogdan Mirica, un western qui transforme la Roumanie en Far West, où un jeune homme, héritier de centaines d'hectares infertiles, décide de les vendre. Ce qui n'est pas sans déranger les malfaiteurs qui réalisent leur trafic. Et tout démarre avec la disparition d'un ami du jeune héritier, puis la découverte d'un pied dans une rivière. Et le western démarre, pétri des codes du genre et mené avec une rigueur et un rythme qui ont valu à ce premier film le prix Fipresi de la sélection Un certain regard à Cannes. Je poursuis avec le panorama des cinémas chinois organisé les 4 et 5 octobre au théâtre Cantor de l'école, qui propose une approche académique mais aussi une approche grand public des cinémas chinois et taïwanais. Cinéma de plus en plus en vue dans le sillage de cinéastes comme Wu Hsiao-sen ou Jia Zhangke. Seront présentés entre autres Behemoth de Zhao Liang, sélectionné à Venise cette année, qui est un documentaire très ambitieux jusqu'à l'expérimental, posant une caméra très engagée sur la lutte de mineurs pour la reconnaissance de leur maladie professionnelle en Chine. Et puis également Les Trois Sœurs du Yunnan du grand documentariste Wang Bing, que vous avez pu voir en salle il y a 2 ans et qui suit la vie de trois sœurs abandonnées dans les montagnes du Yunnan. On suit leur quotidien avec la lenteur et l'attention propres aux réalisateurs. Une demi-douzaine d'autres films seront présentés. Vous trouverez toutes les infos sur la page de l'émission. On reste en Asie avec In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Nous sommes à Hong Kong dans les années 60. Monsieur et Madame Chow emménagent dans leur nouvel appartement le même jour que leurs voisins, Monsieur et Madame Chan. Et sans comprendre comment ça a commencé, Chow Mo-wan et Chan Lin-zen apprennent que leurs époux respectifs ont une liaison. Et cette découverte les choque bien sûr, mais les rapproche également. Ce film constitue le chef-d'œuvre de Wong Kar-wai et est présenté à l'Institut Lumière vendredi et dimanche. Je vous conseille vivement d'y aller également à l'Institut Lumière. Il était une fois la révolution de Sergio Leone, deuxième film sans doute le plus méconnu du triptyque Il était une fois. C'est à ne pas rater non plus et ça sera présenté samedi et dimanche à l'Institut. D'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Clément, Mathias et Léo pour leur participation à l'émission. N'hésitez pas à commenter cette émission et à poursuivre la discussion sur transistor.fr et à la semaine prochaine sur nos ondes.